Corps, amour, sexualité. Calibre, une émission en direct sur Radio Kaléidoscope.
Calibre, une antenne libre où poser des questions sans tabou ni jugement.
Tous les jeudis, de 20h à 21h, appelez-nous au 04 76 09 09 09.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue à Calibre, l'émission de Libre Antenne sur Radio Kaléidoscope 97 FM. Émission donc de Libre Antenne sur les questions d'amour, de sexualité, de rapport au corps. Et ce soir, pour vous accueillir au téléphone, il y a Greg. Pour bouger les petits boutons pour que tout le son soit bien, c'est Laura. Et à l'animation, donc c'est Emma et Marina.
Voilà, bonsoir. Et Calibre, c'est aussi partout ailleurs sur Internet. Vous pouvez nous écouter sur le site Internet à travers Radio Kaléidoscope et aussi sur notre site à nous, k-libre.poivron.org.
Calibre n'existera pas sans vous, nos auditeurs et auditrices, puisque ça repose sur le principe de la libre antenne. Vous pouvez nous appeler au 04 76 09 09 09, que ce soit pour poser des questions ou pour parler de ce qui vous chante un peu autour de ces questions-là. C'est la libre antenne,
comme son nom l'indique.
Comme son nom l'indique, voilà.
Voilà, donc ce soir, on va vous parler de plusieurs choses. Alors, on vous redit que nous, voilà, on vient aux émissions, on a concocté un petit programme, on a prévu de faire des petites chroniques.
Le mieux, c'est qu'on n'ait pas le temps d'en parler parce que vous nous appelez. Moi, je disais l'autre jour, une émission de Calibre réussie, c'est une émission où on n'entendrait quasiment pas la voix des animatrices. Tu vois? Alors vraiment, coupez-nous la parole, quoi.
Oui, voilà, faut pas avoir peur d'appeler... et de nous couper. Voilà, ce soir, comme petite proposition qu'on a à vous faire, c'est d'abord de parler des règles à travers une brochure qui s'appelle Ragnas. Voilà.
Parler un peu de ces questions d'accouchement à domicile.
Voilà, et notamment à travers les luttes des sages-femmes qui pratiquent l'accouchement à domicile et comment ça se passe pour elles, vu que c'est un peu chaud en ce moment.
On avait envie de vous présenter un livret sur les violences sexuelles sur les mineurs qu'on a trouvé intéressant et chouette. Donc voilà. On va vous en parler un peu tout à l'heure.
Un livret de prévention et d'accompagnement de ces paroles-là, on va dire.
Et puis un petit agenda de ce qui se passe localement à Grenoble, puisque c'est de là dont on vous parle.
Voilà.
Mais
et
pour
avant
commencer,
de... Oui.
Allez, un petit jeu.
Un petit jeu. Donc, vous savez, on a cette petite tradition qui n'est pas toujours très régulière dans cette émission, qui consiste à lancer un petit quiz. Donc une question à laquelle vous pouvez répondre en nous appelant au 04 76 09 09 09. Et le quiz de ce soir est qu'est-ce que le... Ah, j'ai perdu ma feuille, attendez.
Qu'est-ce qu'elle va nous sortir comme bestiole.
Qu'est-ce Allez. Que le candidat albican. Voilà.
Le candidat albican présidentiel.
Le candidat albican. Qu'est-ce que cela. Et donc, à la clé... quand même un cadeau.
Attention, qui dit concours, dit cadeau.
Voilà.
Si vous répondez correctement à cette question, vous repartirez chez vous. On vous enverra,
oui,
justement, une compilation
de Radio Rageuse.
Et
qu'est-ce
ça, que c'est
quand même la classe.
Mais oui, mais ne rigole pas, c'est vraiment la classe.
Sérigraphié, tout bien, enfin...
Radio Rageuse, c'est ce réseau d'émissions de meufs et ou féministes francophones, et donc existe depuis un an ou deux là, qui se monte pour être en réseau, quoi, en gros, entre toutes ces émissions.
Donc Calibre fait partie, et
voilà.
Dégenré aussi.
Voilà, et donc c'est une compile, quoi. Alors il y a Calibre, il y a Dégenré, puis il y a d'autres émissions, les émissions de Marseille, de Toulouse, de Saint-Étienne, de Lyon... Et donc, c'est un bel objet, déjà parce qu'il est sérigraphié et qu'il est beau. Et puis parce qu'il contient de sacrées émissions qu'on trouve la classe, quoi. Donc voilà le super cadeau que vous pouvez remporter en nous appelant pour nous dire « Mais qu'est-ce que c'est que le candidat
albican ?» Alors là, on va lancer la première musique et on s'écoute...
Les Yeah 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 avec la chanson « Tic ».
Tick, 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 tick.
J'ai eu mes ragnagnas pour la première fois sur une mobilette. J'allais avoir 15 ans le mois d'après, et ça faisait un moment que je les attendais, ces fameuses anglaises. À un moment donné, j'ai même cru ne jamais les avoir et être exclue du genre humain. Celui qui passe les différentes étapes de transformation physique, avec, pour les filles, les seins qui poussent, c'était pas mon cas, les poils pubiens, bon là oui j'en avais, l'acné, ouais j'ai eu cette chance, et les menstruations. Bah non, ça venait toujours pas. Au collège, toutes les filles les avaient eues au goutte à goutte, puis en quatrième et troisième, toutes les avaient, sauf moi. J'avais honte de ne pas être une vraie femme, comme elles. En plus, j'avais même pas les seins pour substituer cette absence. C'est fou ce que ça avait l'air de leur changer la vie, ces histoires de règles. Une sorte de fierté était inscrite sur leur visage, et elles prenaient des airs supérieurs en discutant de leurs problèmes de filles auxquels j'étais exclue, car je ne pouvais évidemment pas comprendre ce que je connaissais pas. On aurait dit qu'elles me considéraient comme un sous-genre de leur espèce, un être au sexe féminin mais d'apparence trop androgyne, et de plus même pas fini biologiquement. Elles avaient toutes des petits copains, certaines prenaient déjà la pilule de contraception. Tout ça me paraissait bien lointain. Pas que le fait d'avoir un petit copain me déplaisait, juste que ces stupides garçons voulaient pas être avec des gamines, mais avec des femmes, celles qui les ont, les vraies de vraies, quoi. Quand j'y repense, c'était vraiment n'importe quoi. Ils croyaient quoi, ces garçons? Qu'on allait se marier et faire des enfants à l'âge de 13 ans? Bon, revenons-en à mes souvenirs. Ouais, je me souviens très bien avoir eu un début de petit copain. En plus, c'était celui que toutes les filles convoitaient, alors ça me permettait d'avoir la classe. Jusqu'au jour, bon d'ailleurs ce jour est arrivé assez vite, hein, où une des vipères du service général des concierges du cycle menstruel, le CGCCM, a dit à mon petit copain « Quoi ? Mais tu sors avec elle ? Trop la honte, elle les a pas encore, c'est qu'une gamine !» Et lui, victime de la pression sociale de la puberté, m'a plaqué sans explication. J'ai pas tout de suite compris le râteau que je m'étais prise, jusqu'à ce qu'une des membres du CGCCM ait venu me dire, accompagnée de sa gentillesse hypocrite, « Faut que tu le saches, hein, les garçons, ils veulent pas sortir avec toi parce que t'as pas tes ragnagnas. » Bah oui, évidemment. Les histoires d'amour commencent avec les menstruations, c'est la règle des règles. Sauf que dans mon cas, c'était pas vrai, car à 3 ans, j'avais déjà eu mes premiers émois amoureux et je m'en souviens encore comme si c'était hier. J'ai été très énervée de cette situation, et en même temps, j'enviais les filles qui les avaient, car elles faisaient partie de celles qui plaisaient, et moi pas. Mais au fond de moi, je m'en fichais éperdument, j'avais juste envie d'être normale et d'être acceptée par les autres membres de mon espèce. Mais un jour, le grand jour est arrivé, alors que je roulais en mobylette, ça vous le savez déjà. J'ai tout de suite su que c'était ça. Elles, les ragnagnas, enfin! J'ai cru ne jamais vous connaître, vous et moi avons tellement de choses à nous dire. Je suis rentrée chez moi à illico, je suis allée voir ma mère, mes sœurs, en leur disant « Ça y est, les Anglaises sont arrivées !» Elles trois m'ont répondu la bouche en cœur « C'est pas vrai, t'es une femme maintenant !» Elles m'ont donné des couches et m'ont expliqué qu'au début je les aurais de manière irrégulière et que plus tard, ça allait se stabiliser à raison de quelques jours par mois. Qu'est-ce que j'étais fière! J'avais envie de le crier sur les toits, j'avais cette sensation d'avoir gagné un trophée, la coupe des ragnas était entre mes mains, victoire! Bon, par la suite, je m'attendais à avoir un déclic, un changement radical de ma personne, mais bah non. Je préférais toujours le foot au maquillage, les films de karaté aux films d'amour et les pantalons basket aux jupes bottines. Bon. Je me sentais libérée. Soulagée car 2 mois après, surtout, j'entrais au lycée. Les garçons y étaient moins stupides et le CGCCM n'existait plus. Même si on était encore en plein dans le passage de la puberté, on avait l'impression d'avoir passé une étape, d'être des grands, les garçons avaient tous mué de la voix et la question des menstruations chez les filles ne se posait plus. Actuellement, j'ai 13 ans de ragnagna derrière moi et je me posais la question. Est-ce que je me sens plus femme aujourd'hui qu'à l'âge de 10 ans? Certes, je me sens plus une petite fille. Mais je me sens pas pour autant comme la femme qu'on nous montre à tous les coins de rue dans les publicités, la télé, les magazines, celle qui transpire la féminité de tous les pores de son corps. Je me sens avant tout, moi, dans un corps de femme, de fille, parfois de gamine. Perso, je trouve pas que les ragnasses c'est dégueulasse, mais pour certaines filles c'est vraiment trop contraignant, douloureux, et elles décident de plus les avoir en prenant certaines pilules. Je juge pas ces filles, mais pour moi les règles ça fait partie du jeu hasardeux de la vie. Celui où on choisit pas son corps au départ. Je suis un être, dans un corps de femme. Et je trouve ça classe pour plein de raisons. Bon voilà, je m'arrête ici les copines. Et je vous souhaite de joyeuses ragnasses.
Alors ça, c'est l'extrait d'une brochure en fait que tu avais envie de présenter un peu ce soir.
Voilà. Donc c'est une brochure qui s'appelle Ragnasse. C'est un peu pour ça qu'elle dit ça à la fin là. Et donc cette brochure, c'est une brochure sur les règles à l'intention des jeunes filles, qui a été autoproduite, dans les réseaux plutôt alternatifs, hein, et que je trouve assez chouette parce que du coup, bon, bah, le truc moteur au départ, c'est tiens, comment parler des règles à des jeunes filles qui les ont pas encore ou qui viennent de les avoir, enfin qui sont dans la puberté. Et ouais, je trouve ça intéressant d'où ça parle, comment du coup ça parle à la fois de façon simple et directe, mais tout en étant quand même assez précise, parce que donc en gros le sommaire au début c'est plus des trucs un peu concrets sur c'est quoi les règles, comment ça marche le cycle, les organes. Comment on prend soin de soi aussi, parce que bah oui, ça fait mal les règles, alors qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas une fatalité que ça fasse mal, enfin. Il y a quand même une optique féministe pour moi derrière, au sens où ça dit, déjà, il n'y a pas de honte à avoir. Ça travaille aussi sur les représentations, comment dans les pubs, les magazines, on nous dit toujours que c'est sale, qu'il faut surtout pas que ça se voit, que c'est vraiment... Le but ultime, c'est qu'en fait, c'est comme si ça, personne savait qu'on avait ces règles.
D'ailleurs, je me souviens des pubs à l'époque où j'avais la télé chez mes parents, genre, et
le sang,
le liquide, il est toujours bleu.
Ouais, voilà.
C'est complètement absurde.
Et puis elles ont toujours des pantalons blancs, et il faut surtout pas qu'elles aient de taches, quoi.
Voilà.
Et donc, ça questionne plein de choses comme ça. Donc, j'ai trouvé plutôt chouette, le propos, et puis voilà, avec un langage simple, des petits dessins sympas, et à la fin, 3-4 témoignages, comme celui-là que je viens de lire et qui me fait un peu marrer, parce que aussi, il questionne un peu ce rapport entre avoir ses règles et devenir une vraie femme. Et là, celle qui témoigne, elle dit, j'étais pas plus une... j'étais toujours garçon manqué à la fin, quoi. Les règles, ça a rien changé, en fait. Et je trouve ça intéressant je pense qu'il y a un rapport comme ça un peu bizarre entre avoir ses règles et devenir une femme, qu'on peut questionner un peu entre les réalités biologiques et l'identité qu'on a, quoi.
Et donc Marina, on la trouve où cette brochure?
Ah, alors on la trouve sur Internet. Vous allez me dire, et si on n'a pas Internet? Bon, alors d'abord, si vous avez Internet, comme beaucoup de gens aujourd'hui, il y a un site qui s'appelle ragnasse.blogspot.com.
Voilà, ouais, donc on peut la télécharger.
Ouais, voilà. Puis je crois que même depuis, il y a eu des numéros après, mais je ne les ai pas lus.
Oui, il y a eu un numéro 2 et là, il y a un numéro 3. Alors je ne sais pas s'il est sorti ou s'il est en cours de sortage.
D'accord. Voilà.
Voilà.
Et puis c'est aussi possible d'écrire, il faut avoir Internet, hein, parce qu'on peut aussi écrire un mail au Ragnasse Crew pour avoir la brochure, mais on mettra tout ça sur le site de Calibre, voilà. Mais bon, en gros, une petite brochure sympa, assez jolie, sérigraphiée en couleur en plus, qui dédramatise quand même pas mal le fait d'avoir ses règles et je trouve ça plutôt pas mal, parce que je pense que quand on est ado, c'est quand même quelque chose qui nous prend un peu la tête. Hein. Enfin, je sais pas toi, moi, ça me travaillait un peu quand même, quoi, sans que ce soit un drame. Mais...
Ah oui, c'est tout un truc. Mais moi, par exemple, je les ai eus alors qu'on m'en avait pas parlé. J'étais assez jeune.
Alors tu t'es dit, pourquoi je saigne? T'as eu peur d'être malade?
Oui.
Ouais.
Ouais.
Tu t'es dit, j'ai un problème, je suis blessée.
Super, en fait. Ouais. J'étais pas chez moi. Enfin bon, c'était un peu le scénario catastrophe.
Ouais.
Mais on m'a dit assez rapidement quand même ce qui se passait. Du coup.
Mais c'est fou ça qu'on parle pas aux gamines, mais simplement sans faire peur, quoi. Que voilà. Enfin, mais c'est aussi parce que c'est caché. On voit pas nos mamans avoir leurs règles. Enfin, tu vois, j'ai l'impression que tout ça, ce serait un peu plus détendu. Bah, peut-être, ce serait un peu plus détendu pour tout le monde, quoi.
Ouais, mais moi, j'ai pas mal de témoignages de copines aussi où la technique de base des mères, c'était de mettre un paquet de couches hygiéniques dans ton sac si tu pars en voyage. Juste comme ça, sans te dire pourquoi.
Est-ce qu'elles croient que je vais faire pipi au lit?
Voilà, ou qu'on t'a dit vaguement qu'il allait arriver un truc, mais... Bon, heureusement, la construction genrée veut que les filles parlent beaucoup et parlent entre elles notamment.
Mais ça, c'est très bien.
Du coup, ça nous sauve pas
mal.
C'est
une très bonne pratique.
Voilà, moi, c'est mes copines qui m'ont expliqué ce que c'était les règles. Du coup.
Bah oui.
Mais voilà, moi, je pense que par ailleurs, oui, des fois, en tant que parent, on peut ne pas se sentir de parler de sexualité ou bien de rapport
mais
au corps avec son enfant,
ouais,
ou je sais pas quoi.
C'est pas une histoire de sexualité, là. C'est
non,
juste une histoire de truc qui.
Non.
Enfin, toi, c'est aussi ce lien entre les règles et la sexualité que je trouve. Enfin, mais je vois bien c'est quoi le rapport. C'est
bah
qu'à
oui,
partir
mais
du moment où on a ces règles,
donner des
est...
explications du coup de où ça vient, les règles et puis à quoi ça sert. Enfin bon. Mais du coup, si on se sent pas d'en parler avec son enfant ou les enfants de son entourage, il y a pas de problème. Il y a des gens qui vont faire ça à notre place. Mais enfin, l'important c'est quand même de pouvoir transmettre ces informations d'une manière ou d'une autre, quoi. Et que les petites filles, les jeunes filles aient accès à ces informations.
Bah
voilà,
ouais,
notamment il y a des brochures.
Voilà, cette brochure par exemple, je pense qu'elle peut être sympa à offrir à des ados ou à des pré-ados.
Pensez-y à Noël, Ragnas. Je pense qu'autour du sapin,
c'est du meilleur c'est... effet. Je pense qu'il y a moyen que la gamine elle t'envahit un peu aussi d'ailleurs. Eh, j'aurais préféré un iPod là plutôt qu'une
ouais,
brochure.
Ouais, je dirais que l'oncle baveux à côté. Oh, mais qu'est-ce que t'as eu par.
La cousine féministe. Ah bah merci.
Ah, merci, là. Super. Mais bon, on peut s'arranger pour faire des cadeaux en toute discrétion aussi.
Oui, je pense que peut-être que c'est plus judicieux qu'au pied du sapin.
Voilà, du coup, on va faire une petite pause musicale et on vous retrouve juste après pour parler d'accouchement à domicile.
Mais n'oubliez pas, notre jeu concours...
Que vous pouvez nous appeler aussi.
Alors, vous pouvez nous appeler
pour n'importe
quelque
quoi.
Quelque sujet, que ce soit libre antenne, calibre 04 76 09 09 09. Mais surtout, notre jeu concours du soir, nous t'écoutons Emma.
Oui, donc le super quiz, la réponse à laquelle il faut répondre pour gagner cette merveilleuse compile des radios rageuses, c'est « Qu'est-ce que le candidat albican ?» Et on enchaîne avec « Dark, 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 daydreaming ».
Oh, if you knew what it meant to me, beware the air, so clear. Oh, if you knew what it meant to me, anywhere but here. Thank you.
Vous écoutez toujours Calibre sur 97 FM à Grenoble et partout ailleurs sur Internet.
Vous sur pouvez... Radio Kaléidoscope.
Tout à fait.
Vous pouvez nous appeler
au 04 76 09 09 09 pour parler de corps, d'amour, de relations, de sexualité, etc., etc. C'est la libre antenne. Vous pouvez nous appeler quand vous avez envie de poser des questions, de passer des coups de gueule, commenter l'actualité. Enfin. Un peu ce que vous voulez, quoi. La place est là. Nous, on poursuit un peu dans notre petit sommaire qu'on avait concocté pour ce soir. Et moi, j'avais envie de faire une petite, un petit point sur la question de l'accouchement à domicile. Puisque voilà, dans notre émission, on aime aussi parler de rapport au corps et notamment aussi quel choix on a dans cette société de disposer de notre corps et de notamment choisir d'accoucher à domicile ou pas, ou à l'hôpital ou pas. Et voilà, et qu'en est-il du choix des femmes en cette matière? J'avais envie d'aborder cette question-là à travers le combat d'une sage-femme, en fait, qui s'appelle Gisèle, qui habite à Crolles et qui a lancé un peu un appel général à propos de sa situation, à savoir que elle est du coup donc sage-femme libérale et elle pratique depuis un certain nombre d'années les accouchements à domicile et elle s'est mise en arrêt de travail depuis octobre dernier. Et elle explique un peu que sa situation devient trop difficile et qu'elle peut plus exercer son métier de manière sereine de par les pressions qu'elle subit, notamment de la part du Conseil de l'Ordre des médecins et du Conseil de l'Ordre des sages-femmes, qui ont carrément déclaré la guerre en fait aux sages-femmes qui pratiquent l'accouchement à domicile sous prétexte de sécurité ou de protéger les femmes enceintes des risques liés à l'accouchement à domicile. Et elle redit un peu comme ça des informations de base qui sont utiles à connaître. Et notamment, elle précise quand même que en France, il n'y a pas plus de mortalité, soit infantile, soit des femmes qui accouchent à domicile ou à l'hôpital. Les chiffres, ils ne sont pas différents, en fait. Parce que, bon, quand même, les sages-femmes, elles connaissent leur métier et elles peuvent déterminer assez rapidement ou assez tôt dans la grossesse s'il y a des risques. Elles vont, de toute façon, prendre aucun risque vu que, enfin, c'est hyper compliqué pour elles d'exercer ces pratiques-là d'accouchement à domicile. Et du coup, dès qu'elles ont un doute, de toute façon, elles vont diriger les femmes vers l'hôpital, etc. Enfin, t'avais une question du
coup. Il y en a encore beaucoup des accouchements à domicile en France. Ouais. Dire, pour qu'il y ait des chiffres, il faut qu'il y en ait. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne qui accouche à domicile.
Non, il n'y en a plus beaucoup. C'est clair que la plupart des accouchements se font à l'hôpital. Je crois que c'est de l'ordre de 80% ou même un peu plus. Ouais, je ne sais plus. En fait, j'ai relu des chiffres là, mais Ouais, non, c'est pas ça les 80%, c'est l'hypéridurale. Bon. Non, mais en fait, effectivement, l'écrasante majorité choisissent d'aller à l'hôpital. Et puis, de toute façon, je crois que la question, elle se pose presque pas la plupart du temps.
Mais du coup, si tu veux accoucher à domicile, si tu es enceinte et que tu veux accoucher à domicile, c'est plus possible ou c'est encore possible?
Si, c'est possible. Bah, par exemple, au niveau de la loi, en France, c'est pas interdit d'accoucher à domicile. C'est pas illégal, quoi. Après, c'est comme tout, la loi, elle permet de pouvoir le faire, mais la mise en application, elle devient quasiment impossible parce que les sages-femmes qui souhaitent pratiquer l'accouchement à domicile ne peuvent plus pratiquer leur métier de
Pourquoi
manière sereine, bah parce qu'elles subissent des pressions, en fait, de la part...
Quel type de pression?
Elles se font menacer par l'ordre du Conseil des médecins, là, et elles passent en procès, surtout.
Et sur quel
sur des critères de en fait on vient contrôler quelles sont leurs pratiques et enfin c'est ce qu'elle explique elle dans la lettre qu'elle a rédigée cette femme là Gisèle que en fait ils inventent carrément des motifs, c'est-à-dire que il y a des rapports qui sont dirigés sur leur pratique professionnelle alors qu'elles ont même pas été contrôlées, que personne n'est venu les voir, enfin voilà, sous prétexte que en fait elles prennent des risques qui sont trop importants Et voilà, et elle rappelle aussi quelque chose que je trouve assez éclairant, c'est que la plupart des médecins sont des hommes, en fait, encore en France, et que ben, c'est aussi une hiérarchie qui est très genrée, pour le coup. Les médecins sont des hommes, les sages-femmes sont des femmes, et que les médecins ont envie de contrôler, en fait, les pratiques des femmes, qu'elles soient enceintes ou sages-femmes. Et ils n'aiment pas bien que, qu'il se passe des choses qui ne peuvent pas bah ouais, regarder, aussi... contrôler.
J'imagine que c'est aussi une histoire de fric qu'il y a derrière tout ça. C'est
oui,
que ça
bien sûr.
Du fric. Plus il y a d'accouchements dans un hôpital, plus on gagne des sous.
Mais alors là, du coup, c'est en train de s'inverser parce que vu que ça ne va plus être possible trop de choisir d'accoucher à domicile, du coup, il y a des femmes qui vont faire le choix de faire... appel à des structures privées, type clinique ou autre, pour faire venir des sages-femmes. Et là, les taux, les horaires, les tarifs horaires dépassent largement les tarifs conventionnels. Enfin, bon, voilà.
En gros, si tu as du fric, tu vas pouvoir gérer ton accouchement un peu comme tu veux, pouvoir te payer une salle d'accouchement où tu vas faire comme tu as envie, là.
Oui, voilà.
Et si tu n'as pas de fric, tu te retrouves à l'hôpital public.
Voilà.
Et t'accouches comme tu peux, quoi.
Oui. Bon, en tout cas, voilà, moi, je trouve que c'est intéressant de savoir que le choix, il est réduit maintenant, de plus en plus. La normalisation des méthodes d'accouchement ou la surmédicalisation des grossesses est hyper forte. Et du coup, les sages-femmes ou les femmes enceintes qui avaient choisi de faire un peu autrement ou en tout cas de faire comme elles avaient envie, ça va devenir vraiment très compliqué. Elle dit que, par exemple, elle est seule pour l'Isère et la Savoie. Enfin, moi, ça me paraît dingue, quoi.
Parce que elle ne doit pas gérer beaucoup d'accouchements, comme voilà, ça, c'est pas trop possible, quoi. Mais du coup, il y a un peu des mouvements. Enfin, je veux dire, il y a des, par exemple, j'imagine chez des femmes enceintes qui voudraient revendiquer le droit d'accoucher hors hôpital ou de la part des quelques sages-femmes en France qui veulent encore pratiquer leur métier de cette façon-là.
Bah, en fait, elle fait le relais de quelques associations et notamment il y a l'association Bien-être et Grandir là qui est domiciliée à Grenoble. Qui va pouvoir donner des noms de sages-femmes qui pratiquent l'accouchement à domicile. Et après, elle propose aussi de contacter l'association des sages-femmes des Alpes, là, qui aussi regroupe des sages-femmes qui pratiquent l'accouchement à domicile. Voilà. Voilà, bon, c'était simplement faire le relais un peu du combat de cette femme. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que c'est vrai que moi, si je m'imagine une société idéale, c'est une société où on peut choisir, en fait, et où c'est possible, si t'as envie d'aller à l'hôpital et d'avoir une péridurale et de faire je sais pas quoi.
Et de te réveiller avec ton bébé dans les bras sans avoir rien senti du tout.
Voilà, de t'endormir et de te réveiller, il y a quelqu'un en plus dans la pièce. Ou si t'as envie de vivre ça chez toi, en buvant de la tisane, et ben... ça devrait être possible aussi. Et voilà, et en fait, moi, je trouve que ça rejoint les luttes qu'il peut y avoir plus globalement autour du choix d'avoir ou pas des enfants, d'avorter ou pas. C'est toujours la même chose. C'est comment on peut agrandir l'éventail de choix et que ça soit possible toujours de faire ce qu'on veut, en fait, avec son corps et de procréer ou pas
Alors comment... je sais pas ce qu'il en est pour cette Gisèle que je ne connais pas du tout, mais moi j'ai cet a priori que les sages-femmes elles sont pas hyper pro-avortement, enfin qu'elles sont limite anti-avortement. J'ai un peu cet a priori là, enfin qu'elles ont des rapports étranges à ça.
Ah oui.
Dû à leur moi c'est un a priori que j'ai. Alors
bah pourtant il y en a pas mal qui pratiquent aussi les avortements.
Ouais.
Du coup,
oui, mais on peut pratiquer des avortements et, et avoir un jugement moral, tout ça.
Moi, j'ai jamais... Enfin, c'est sûr que je pense que dans ma vie personnelle, les fois où j'ai rencontré des sages-femmes, c'était pas pour des avortements. Mais je sais pas, en fait.
Je me pose la question. Enfin, parce que je trouve intéressant, moi, de faire le lien politique entre le fait de pouvoir accoucher comme on a envie, le fait de pouvoir avorter comme on a envie, enfin ça veut dire de pouvoir gérer sa fertilité comme on en a envie. Mais je j'ai des doutes sur le fait que les sages-femmes fassent ce lien politique-là. Mais j'aimerais qu'elles me rassurent.
Ben oui, mais alors si vous nous écoutez...
Que vous êtes sage-femme.
Sage-femme ou non, si vous nous écoutez et que vous avez un avis sur cette question, vous pouvez nous appeler.
Oui, ça m'intéresse, moi. Hein. Voilà. Ça m'intéresse vraiment.
04 76 09 09 09.
Alors, on s'écoute un petit morceau de Scream Club qui s'appelle « I'm going crazy ». Toujours à l'écoute de Radio Kaléidoscope sur 97FM ou peut-être sur internet par notre site k-libre.poivron.org. Vous écoutez donc Calibre, l'émission de Libre Antenne sur les questions de sexualité, d'amour, de relations à notre corps et tout ça et tout ça. Et on vient d'écouter donc ce super morceau de Scream Club. Vous pouvez toujours nous appeler pour répondre à notre fameux quiz du soir pour tenter de gagner un de nos nombreux cadeaux, dont la compilation de Radio Rageuse. Enfin, il n'y aura rien d'autre de toute façon. Mais on en a plusieurs si plusieurs d'entre vous nous appellent. Donc à la question, qu'est-ce que le candidat albican ? On ne vous donnera pas la réponse hein, si vous ne les appelez pas.
Non, que à la toute fin.
mais en attendant, on voulait donc présenter un petit livret de prévention des violences sexuelles sur les mineurs.
Voilà, donc je rappelle quand même vite fait le numéro de téléphone, je ne sais pas si on l'avait fait, 04 76 09 09 09. Donc le livret s'appelle « Signaux d'alerte et phrases assassines, les violences sexuelles sur les mineurs ». Donc c'est un livret qui a été fait par une association qui s'appelle « Le monde à travers un regard », qui est une asso de lutte et de prévention contre l'inceste et la pédocriminalité. Et ce livret, on avait envie d'en parler parce qu'on trouve qu'il est bien fait et qu'il peut être vraiment utile quand on vit avec des enfants ou qu'on côtoie des enfants.
Ou qu'on a été soi-même un enfant.
Voilà, donc c'est à peu près le cas de tout le monde.
Non, mais je pense que c'est important. Enfin, ça permet aussi de regarder, de penser à soi, à nos frères et sœurs, des gamins, il y en a partout, quoi.
Voilà. Et du coup...
Heureusement, pas complètement partout, quand même. Mais...
Donc, ce livret, il est bien fait à la fois dans son contenu et moi, je trouve aussi dans sa forme, parce que je trouve qu'il est assez bien illustré et que ce contenu, en tout cas, est agréable à parcourir. Bon, après, c'est clair que, je veux dire, on ne se marre pas en lisant cette brochure. C'est quand même un sujet assez lourd, assez grave. Ça peut renvoyer ou pas à des expériences vécues. Enfin bon. Oui, donc c'est Sandrine Appert qui l'a écrit, qui est la présidente de l'association. Et puis, deux autres femmes ont participé à la rédaction et à l'illustration de la brochure. On y trouve dedans des témoignages, des définitions, aussi des rappels à la loi, ce qui n'est pas inutile parfois. Et puis, toute la deuxième partie, c'est sur les mythes, les idées reçues, les phrases assassines, comment on accueille la parole de l'enfant et comment on peut réagir. Du coup, je trouve qu'il y a une progression comme ça dans le contenu qui est assez intéressante et qui est bien foutu parce que il y a d'abord un peu le contexte, qu'est-ce que c'est l'inceste, qu'est-ce que c'est les violences sexuelles sur les mineurs, les chiffres, etc. Et après il y a un peu des outils de comment on peut identifier en fait et comment on peut reconnaître les signes comment on peut réagir quoi.
Et avant d'en arriver justement à un des trucs qui fait je pense la spécificité de cette brochure, notamment sur des trucs très concrets dont on parlera tout à l'heure, pour revenir sur le contexte. Est-ce que ça parle un peu de justement, ça représente qui ? Enfin, est-ce que ça touche beaucoup de gens ? Je pose des questions naïves. les violences alors sur les mineurs, elle donne un peu des chiffres, elle place un peu le contexte.
Alors, elle dit que c'est quand même très difficile à chiffrer. On n'a pas de statistiques comme ça précises de, par exemple, combien il y a d'enfants qui seraient victimes de violences sexuelles. Mais on sait en tout cas que, d'après les études qui ont été menées et les enquêtes quand même statistiques qui ont été faites, il y a un enfant sur quatre qui sera victime d'agression sexuelle.
Alors j'imagine, et quelque part j'espère, parce que je trouve déjà ce chiffre très dur, qu'ils prennent en compte le fait qu'on ne sait pas tout.
Voilà, c'est ça.
Parce qu'on sait que toutes les personnes victimes de violences sexuelles ne vont pas aller le dire.
On
estime toujours que les chiffres sont un peu plus hauts que ce qu'on a, quoi.
Oui. Alors bon, déjà, du coup, ça peut vraiment nous rappeler une réalité assez triste. En tout cas, elle rappelle aussi, effectivement, des trucs un peu fondamentaux par rapport à ça. Elle dit que, de toute façon, l'écrasante majorité des victimes ne parleront jamais, que c'est hyper difficile pour un enfant ou un adolescent de raconter ce qui se passe, de raconter ce qu'il vit, et que, du coup, la plupart des victimes ne parlent pas et donc parleront peut-être plus facilement plus tard, à l'âge adulte et tout. C'est aussi pour ça que la loi est mal faite, parce qu'il y a une prescription par rapport à si on fait le choix de, par exemple, faire un procès à la personne qui nous a agressé, et ben si c'est 10 ans après l'agression, c'est trop tard.
Même si on avait 5 ans à l'époque et qu'on a 25 ans
Ouais,
c'est mal fait. Ouais.
Donc voilà, la loi protège largement les agresseurs.
Comme c'est étonnant.
Oui, c'est vraiment... Voilà. Et du coup, bon, en termes de chiffres, on sait aussi que 45% des personnes victimes de violences sexuelles ont moins de 9 ans.
Donc alors, excuse-moi, je reformule. 45% des violences...
45% des victimes
de violences sexuelles en général.
Voilà, en général.
Sont des enfants de moins de 9 ans.
Voilà.
Les autres sont soit des enfants de plus de 9 ans.
Voilà, soit les femmes.
Soit des femmes.
Donc ça pose aussi un peu le contexte. Voilà. Ça rappelle en fait des choses un peu basiques, si je peux m'exprimer comme ça. C'est que, effectivement, je veux dire, les proies évidentes, faciles, c'est les personnes qui vont parler le moins... qui vont ne pas parler, en fait, à qui on peut faire peur facilement. Bon, voilà, bref. En tout cas... Bon, voilà, le contexte, c'est un peu
celui-là. Et alors, sur les agresseurs, parce qu'on en parlait un peu tout à l'heure en préparant l'émission, c'est toujours important de le rappeler, parce que sinon, on essaye de nous faire croire un peu le contraire.
Oui.
Qui sont les agresseurs, d'après les statistiques?
Voilà, donc 99% des agresseurs sont des hommes, et l'écrasante majorité des agresseurs sont des hommes de l'entourage proche. Donc le père, le frère... les oncles, le meilleur pote, voilà. Donc ça contre
bien l'espèce d'idée un peu reçue que du pervers dans la rue, quoi.
Oui, mais en fait, ça rejoint vraiment l'idée aussi qui est que les viols, c'est pas dans les parkings souterrains, en fait. Enfin, si, ça peut arriver, bien sûr. Mais en tout cas, la majorité des viols, c'est par une personne qu'on connaît bien. Donc,
mais décidément, la famille, c'est très dangereux.
Oui.
Hein. Moi, j'arrête pas de le dire. À Noël, vraiment, partez en vacances aux Bahamas. Hein.
Aux Bahamas ou...
en stop sur la côte bretonne, quoi.
Mais en tout cas, voilà, c'est, je trouve utile de rappeler ce contexte-là. Voilà, pour simplement avoir des bases sur lesquelles on est un peu informé. Donc, en gros... les violences sexuelles s'exercent dans la famille ou en tout cas dans l'entourage proche et beaucoup en direction aussi des enfants. Les agresseurs sont majoritairement des hommes.
Donc, aussi, un des trucs intéressants de cette brochure, c'est justement qu'elle donne des pistes concrètes. Moi, c'est un truc que j'ai bien aimé. Alors, ce qu'elle appelle les petites phrases assassines. Donc, il y a la première partie, c'est les phrases assassines de l'agresseur, donc que l'agresseur va utiliser pour réduire au silence l'enfant qui l'agresse. Donc bon, ça, à la limite, bon, j'ai trouvé ça intéressant. Mais ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, moi, je crois plutôt, c'est les phrases de l'entourage. Des exemples de phrases que l'entourage peut avoir quand l'enfant va casser un peu le silence sur ce sujet. Et ça permet, je trouve, vraiment de se rendre compte comment on peut faire du mal. Peut-être même sans le vouloir, peut-être des fois en le voulant, mais j'imagine qu'il y a des moments où des phrases nous échappent et où on ne se réalise pas à quel point ça peut vraiment être hyper violent pour un gamin. Alors, je sais pas, il y a des
petites phrases comme ça. Alors, tout le livret est basé sur des témoignages. Du coup, elles ont classifié un peu comme ça les petites phrases assassines suivant de qui elles venaient. Et voilà. Et en fait, effectivement, dans l'entourage, on a les fameux « Mais qu'est-ce que t'as fait pour qu'ils te fassent ça ?»« Mais tu nous dis ça, t'imagines pas ce que ça nous fait à nous ?»« Comment tu peux faire ça ?» tu te rends compte si ce que tu dis est vrai, il va direct en prison. Est-ce que c'est ça que tu veux? Enfin, voilà, toutes ces petites
de remuer la mer.
Voilà, donc toutes ces petites phrases qui vont faire que la personne ne va pas parler, va culpabiliser et penser surtout que c'est sa responsabilité en fait ce qui arrive et que c'est très difficile de porter le poids d'un éventuel drame familial. Enfin, j'imagine que ça réduit au silence assez vite en fait.
Et il y a également les petites phrases assassines des psys notamment, enfin des professionnels. Alors ça, j'ai trouvé que ça envoyait du lourd aussi, surtout quand tu comprends donc que c'est bien
des témoignages
véritables.
Oui, un psychiatre qui a pu dire par exemple « Et vous, avez-vous été un bon fils ?» Voilà, suite à un aveu où « C'est grave, c'est très très grave, vaut mieux pas en parler. » ou il faut savoir pardonner, ou pourquoi vous n'avez pas dit non avant.
Attends, il y en a une qui me paraît complètement... j'arrive pas à y croire, mais c'est pourtant, ça a l'air d'être la vérité. Un psychothérapeute, vous avez dû faire quelque chose de terrible dans une vie antérieure pour vous réincarner dans un corps de victime de viol.
Voilà.
Oh my god.
Ouais. Bah oui, c'est ça. Donc en fait, c'est bien, ça remet un peu les points sur les i aussi, sur le pouvoir médical et le pouvoir des gens en blouse blanche.
Tout à fait.
Comment ça peut avoir aussi une incidence très forte dans le parcours des personnes. Bon, voilà, donc ça, c'est les phrases assassines. Et après, oui, le livret se termine sur... comment accueillir la parole de l'enfant et quels signes peuvent peut-être éventuellement montrer des indicateurs de violence subie de la part de l'enfant. À prendre vraiment avec précaution parce que c'est simplement des indicateurs et c'est pas... bon, là, on lisait un petit peu avec Marina avant de prendre l'antenne. Bon, alors si un ado de 13 ans se met à fumer des clopes
et à boire de l'alcool
et à insulter ses profs, bon, a priori,
c'est un ado.
Ce n'est pas forcément qu'il est victime de violences sexuelles, mais en tout cas, c'est peut-être l'accumulation de différents indicateurs qui peut peut-être nous mettre la puce à l'oreille. Mais bon.
Pour conclure, j'ai envie de dire, c'est une brochure qui serait bien à mettre dans les mains de tous les parents et enfin de tous les gens qui fréquentent un peu. Des gamins et puis notamment des professionnels aussi parce que voilà. Alors nous avons un coup de fil.
Oui,
donc c'est Manu que nous avons au téléphone.
Allô Manu, tu nous entends ?
Allô ? Oui.
Ouais, oui, salut Manu.
Salut, bonsoir.
Bonsoir, qu'est-ce qui t'amène ?
Ce qui m'amène, c'est que j'avais appelé la semaine dernière où j'avais un peu poussé un coup de gueule parce que j'avais pris des risques sexuels en étant lesbienne.
Ouais.
Et que...
t'es en train de marcher, t'es essoufflée.
Elle voulait pas me prescrire les tests pour dépister les IST, mais elle était juste d'accord pour le VIH.
Ouais.
Et donc après, j'étais allée dans un centre qui s'appelle le 190,
ouais.
Et où là, on m'a répété à chaque étape avant de me faire des prises de sang et tout ça, que... j'étais quand même une lesbienne et que donc il y avait très peu de chances que j'ai une IST ou que j'ai contracté le VIH et que
excuse-moi, je te coupe. Quoi. Pourtant le 190 c'est un centre de santé communautaire, c'est ça ?
Oui.
D'accord. Donc tu t'attendais à être mieux accueillie que ça ?
Ouais, je m'attendais à être carrément mieux accueillie que ça. Et puis la semaine dernière, quand je faisais l'antenne, on m'a dit que j'avais pas encore mes résultats. Et on m'a dit, si tu veux rappeler quand t'as tes résultats, n'hésite pas.
Ouais. Et donc, tu as eu tes résultats.
Et voilà. Et en fait, tout est négatif.
Ah.
Donc j'étais bien rassurée.
Ouais.
C'était important.
Ouais.
Et puis. En fait, c'est aussi pour dire que j'ai vu une émission, parce que j'avais appelé le 1er décembre, donc c'était la journée mondiale de lutte contre le sida.
Ouais.
Et j'ai vu une émission tard le soir, où il y avait une femme, en fait, qui donc parlait du VIH et tout ça. Enfin, c'était une émission d'une heure. Et elle est allée à Kirsten pour sida.
Ouais.
À Paris,
ouais.
Et en fait ils font des dépistages en une demi-heure, mais que pour les homosexuels. Donc elle leur a posé des questions et voilà, et à chaque fois on lui a répété, mais c'est pour les hommes qui aiment les hommes. Et elle a fini par leur dire, est-ce que pour les téléspectateurs je pourrais passer le test pour voir comment, à quoi ça ressemble et tout ça. Et lui ont dit, bon, ok, on va faire une exception, on va le faire sur vous, même si vous êtes une femme, quoi. Et donc, en fait, on voit comment ça se déroule, ils lui piquent le doigt et prennent un peu de sang, et voilà. Et au bout d'une demi-heure, elle a été reçue par une femme médecin qui lui a dit qu'elle était séronégative. Et moi, quand je m'étais renseignée et tout ça, on m'avait dit que si je passais par casque info-sida, bah pour les femmes, ça prenait une semaine en fait d'avoir un résultat.
Ouais.
Et je trouve ça bien qu'il y ait des choses qui soient faites envers la communauté homosexuelle et tout ça, mais enfin, je trouve ça dingue que ça vise que les homosexuels masculins et pas les lesbiennes. Et du coup, les mecs hétéros pourraient aussi y aller s'ils disent pas qu'ils sont hétéros, quoi.
Voilà. Oui, puis, donc, mais c'est bizarre
moi,
que d'ailleurs...
Moi, ce que j'avais compris, ce que je m'étais dit dans ma tête, c'était c'est peut-être un dépistage qui... je sais pas, et comme il est nouveau, ne marche que sur les hommes et pas sur les femmes, et c'est pour ça que on peut pas le faire, quoi.
Mmh, oui, non, et il semblerait que ce soit pas ça, du coup.
Non, et du coup, c'est pas du tout ça. Elle l'a fait, et c'était un vrai test, voilà, et elle l'a su en une demi-heure, quoi.
Oui, non, mais a priori, de toute façon, le sang des femmes et des hommes n'est pas différent, quoi. Donc, il n'y a pas de différence, mais...
Donc mais toi, bon, tu trouves que c'est discriminant, là, le fait de réserver ces tests aux hommes homosexuels?
Ouais, oui, parce que, enfin, moi, en passant par le 190, j'ai attendu que 3 jours au lieu de 7 jours, donc ça, c'était bien, mais voilà, quoi, ça m'a posé question, quand même. Alors que moi, je suis moi-même assez limitante pour plein d'autres choses, même assez extrêmes, genre la non-mixité, choses comme ça. Mais par rapport à la prévention santé, là, je trouvais ça vraiment difficile, quoi, à encaisser.
Ouais. En fait, du coup, ce que tu décris, c'est un parcours, là, quand tu as voulu faire, toi, les démarches de dépistage. Le fait d'être lesbienne, t'as l'impression que ça a été un frein pour pouvoir accéder à ce droit-là.
Ouais, jusqu'à la fin où quand je suis revenue chercher mon test 3 jours après, j'ai rencontré un médecin, un PD, qui m'a dit mais tu sais, ça s'attrape pas par la salive. Et là, j'avais juste envie de m'énerver, quoi.
Il croit vraiment que les lesbiennes ne font que s'embrasser?
À mon avis, oui.
Oh là là, mon Dieu, mais...
Ouais, enfin, moi, je trouve ça dingue.
Mais oui.
Alors que... Enfin, bref, voilà.
Oui, mais en fait, si tu estimais que tu avais pris des risques et que c'était une nécessité de faire un dépistage, ça te regarde et tu es assez... Tu sais ce que tu veux, quoi.
Mais ce qui est dingue, en fait, c'est que... Enfin, tout ça montre encore, déjà, d'une part, quels stéréotypes et quels a priori il y a sur les risques qui sont liés à telle ou telle sexualité. C'est-à-dire qu'il y a quand même un gros cliché qui consiste à penser que c'est d'abord prioritairement les PD qui sont exposés aux risques liés aux IST. Et deuxièmement, j'hallucine en fait quand je t'entends parler de ce médecin, parce que je me dis encore une fois, quelqu'un qui n'est pas formé en fait, et qui en plus fait ces accueils-là, et qui raconte des inepties sur la santé.
Que les lesbiennes ne baissent pas.
Voilà, mais... que les femmes entre elles ne font pas vraiment de sexe, qu'en fait elles font juste que s'embrasser, éventuellement avec la langue. Mais c'est voilà, et ça c'est hyper courant, et c'est vrai que c'est révoltant, parce que en fait ça veut dire aussi qu'on expose les femmes à des risques qui sont plus forts, vu qu'on les informe pas et qu'on leur fait croire que de toute façon, quand t'es lesbienne, c'est pas possible de transmettre ou de recevoir des IST, quoi. Et ça, c'est vraiment grave,
ouais,
en fait.
Je suis d'accord avec toi. C'est exactement ce que je ressens, quoi.
Ouais, non, mais puis en plus, c'est hyper infantilisant. Enfin, c'est... Ouais, c'est humiliant, c'est grave. Enfin, ouais. Mais du coup, t'as raison. Peut-être qu'il faut continuer à dire, en fait, ces expériences-là et dire, ben voilà, voilà comment j'ai été accueillie, voilà ce qui se passe, et que nous, on continue à dire et redire, ben, que c'est...
Et à dire voilà. Et redire aux professionnels, et alors d'autres encore plus auprès des professionnels qui sont déjà dans le réseau militant et communautaire, puisque là, ce médecin PD du centre, je ne sais plus combien, là.
190.
Non, mais il m'énerve. Non, mais formez-vous, quoi. Il existe quand même des supports pour se former. Il y a ces petites brochures, elles, là, qui sont sur le site du CRIPS. Pour notamment à destination des médecins sur les risques pour les lesbiennes.
Il y a la brochure Tomber la culotte qui vient de sortir spécifiquement
alors,
là-dessus.
C'est cool parce qu'ils me l'ont proposé. Enfin,
ah oui?
Ah oui, mais ils l'ont pas lu.
Voilà, mais ils l'ont pas lu.
Ouais, mais c'est ça en fait. Moi, j'ai vraiment envie de trouver un moyen de forcer un peu tous ces professionnels-là à se former correctement sur cette question, à remettre en question leurs préjugés et leurs idées fausses. Parce qu'en fait, il en va de la qualité de l'accueil. Si on dit que le 190 est ouvert à tous et à toutes, et aussi aux lesbiennes, et ben, il faut s'adapter et se former à l'accueil des lesbiennes, quoi.
Complètement.
Mais peut-être qu'il faut peut-être aussi que, alors je sais pas si tu auras le courage, mais ça vaudrait peut-être le coup de leur écrire un courrier.
Si, je pourrais.
Voilà,
de
leur dire là que toi, en tant qu'usagère, tu t'es pas sentie accueillie de façon de façon correcte, quoi. Et je pense que c'est important pour eux qu'ils aient des retours, tu vois.
Mais je pense que en fait, peut-être que je suis naïve ou j'en sais rien, mais je pense qu'ils voulaient me rassurer, enfin me dire. Dans toutes ces étapes-là, ça a été à chaque fois que il y avait moins de risques quand même. Enfin, c'était ça.
Oui, mais parce que ça, c'est pas complètement faux qu'il y a moins de risques. Enfin, je veux dire, étant donné que les liquides les plus contaminants concernant le VIH, en tout cas, c'est le sperme. Donc bon, dans la question des lesbiennes, bam, ça c'est exclu et c'est tant mieux. Et c'est le sang. Du coup, mais arrête de rigoler quand je dis des trucs comme ça. C'est le sang et bon, bah oui, il peut y avoir du sang dans les pratiques. Après, il y a tout un tas de pratiques dans lesquelles il n'y a pas de sang. Donc c'est vrai qu'après, il peut être...
Je l'avais dit la semaine dernière, j'ai fini par mentir parce que, ouais. Pareil, j'avais la femme médecin qui m'a reçue, qui voulait pas forcément faire tous les tests, qui comprenait pas ma démarche. J'ai fini par lui dire, oui, ben, j'ai fait l'amour avec ma copine qui avait ses règles et j'avais une blessure au doigt. Quoi.
Oui, voilà, tu te retrouves à mentir, mais c'est comme tous les gens qui vont en disant que la capote a craqué parce qu'ils osent pas dire qu'ils ont pas mis de capote. C'est pour moi, c'est la même chose et c'est bien la preuve qu'il y a un problème de culpabilisation et là, en l'occurrence, de méconnaissance. Parce que si toi, t'estimais qu'il y avait un risque, que t'avais envie d'être rassuré, mais ça coûte pas non plus méga cher de faire des tests de dépistage.
Et puis en plus, même si ça coûtait cher, c'est quand même plus important de mettre de l'argent là-dedans que dans les prochains chars d'assaut, quoi. Donc, voilà, c'est bien des choix aussi à des moments politiques, quoi.
Ouais, puis bon, moi j'avais envie, enfin le mec qui m'a reçu pour me dire que tout était négatif, c'était vachement bien. Mais quand il m'a dit, quand il m'a parlé, ça ne sera pas par la salive.
Non mais là c'est carrément, c'est insultant, hein, je veux dire, c'est vraiment
c'est insultant.
Que
et je finis par lui dire, oui au fait, quand je fais un fils vaginal à ma copine, je mets un gant ou j'en mets pas? Est-ce que je mets du gel ou j'en mets pas? Et voilà, j'ai senti bien décontenancé, quoi, là.
Non, mais c'est bien, t'as bien fait.
Bah, c'est cool que t'aies réussi à réagir comme
con,
ça.
Je pense.
Mais après, j'avais envie de vraies infos, enfin, genre, j'ai un copain à moi qui m'a dit, fais gaffe, parce que le gel lubrifiant, là, que c'est des petites bouteilles, souvent de 200 ml, que de marque connue, que t'achètes... voilà, en pharmacie, elles ont une validité de 3 mois. Parce que oui, ma copine ne comprenait pas pourquoi j'utilisais finalement des dosettes à usage unique qu'on te donne dans les assos et tout ça. Et c'était justement depuis que ce copain m'avait dit ça, parce que bon, bah, 200 ml de gel lubrifiant en 3 mois, enfin, faut les utiliser, quoi.
Bah ouais. Ouais, puis bon, faut baiser souvent quand même aussi.
Voilà, c'est ça. Et le gars, ben, il savait pas quoi me dire, il était pas du tout au courant, et voilà. Et je lui ai dit, bah, moi j'ai acheté des gants en vinyle aussi, justement pour la pratique du fils et tout ça. Et je lui ai dit, mais si je vois bien que c'est une boîte ouverte comme une boîte de mouchoir, et donc. qui... Enfin, voilà.
C'est quoi ta question par rapport... Alors, attends, parce que...
J'en ai pas un usage quotidien et tout ça, donc à votre avis, vu que ça... Enfin, c'est pas dans un sac fermé...
Mais c'est quoi t'as peur que ça, qu'au contact que de l'air...
Que ça soit poreux, ou je sais pas, ou que ça se détériore, ou j'en sais rien, est-ce que...
Non, il n'y a aucun souci sur les gants, même si la boîte est ouverte. Tu sais, les gynécologues, ils et elles utilisent ces boîtes-là.
Dans les hôpitaux, t'as les boîtes...
En fait, c'est des gants qui sont déjà stériles à la base, quoi. Et du coup, même si la boîte est ouverte, il n'y a aucun souci. Et évidemment, si tu les mets par terre, dans ta cave, c'est pas le plus hygiénique, mais...
Ah oui, mais c'est pas la même chose. Non, mais c'est... La poussière, c'est une question. Mm. Mais ensuite, le fait qu'ils soient moins efficaces en termes de barrière... Mm. J'ai l'impression qu'il faut un sacré bout de temps avant que ça s'abîme. Et s'ils n'ont pas été écorchés ou déchirés, je pense que la méthode barrière, est, parce que c'est ça, c'est une barrière entre tes doigts et le corps de l'autre.
Ah ouais, tout à fait. Puis corps, après, je lui ai demandé comment je pouvais avoir des tics dentaires et là, il ne savait pas.
Mais du coup, par rapport à ta...
Mais les faire, en fait, on m'a dit la semaine dernière, c'est Marina, c'est...
Ouais, c'est moi.
Voilà, qui m'a dit qu'on pouvait les faire et tout ça, et je le savais, j'avais lu une brochure que je dois avoir quelque part chez moi. Ouais. Et donc, ça, c'est facile à faire, et je le ferai.
Moi, je voulais revenir quand même sur le truc du lubrifiant, là. Bon, on se regardait un peu tous les quatre, là, dans le studio, sur ces histoires de lubrifiant, et ça nous paraissait un peu chelou, cette histoire des 3 mois.
De péremption, ouais.
Moi, j'ai du mal à y croire.
Surtout,
hein,
surtout s'ils sont à base d'eau. C'est surtout, des lubrifiants à base d'eau.
Surtout que c'est des commerciaux, ça doit être blindé de conservateurs, ces machins-là, vas-y. Non, mais... C'est l'argent, si tous les 3 mois tu dois en racheter un. Tu vois ?
Ouais.
Bon, moi je veux bien me renseigner un peu plus, mais je vois pas de vraie raison. Enfin, surtout que ce serait inscrit sur la bouteille si vraiment ça devenait dangereux au bout de 3 mois, tu vois.
Non, par contre, ce qu'il faut, enfin moi, ça me fait juste penser de rappeler, de faire attention à la compatibilité des différents supports qu'on utilise et que les lubrifiants à base de silicone sont pas compatibles avec tous les préservatifs et tout ça. Donc ça, c'est à vérifier. Mais et du coup, en ce qui concerne les gants en vinyle, je sais pas ce qu'il en est de la compatibilité entre les lubrifiants en silicone et les gants en vinyle. Les lubrifiants à base d'eau sont compatibles avec tous les types de supports. Du coup, voilà. Mais moi, ça me paraît quand même très étrange, cette histoire de péremption de gel lubrifiant. Surtout ceux qui sont à base d'eau, je vois pas comment.
Ouais.
Bon, voilà.
Mais alors, du coup, là, tu parlais de trouver un moyen de se fabriquer une digue dentaire
soi-même
quand on n'en trouve pas, parce que c'est vrai que ça court pas les rues ni les pharmacies. Là, on s'imagine la digue dentaire avec des pattes en train de courir dans la rue. Bref. Toi, du coup, tu peux nous expliquer un peu comment on peut se fabriquer une digue dentaire soi-même.
Oui.
Donc, pour rappeler à tout le monde, à nos auditeurs auditrices, une digue dentaire, c'est une méthode qui va faire une barrière entre la bouche et le sexe de la meuf avec qui on veut faire un cuni, quoi.
Un petit carré très sexy.
Voilà,
à mettre devant
pour
la
les
vieille.
Rapports bucogénitaux.
Autrement voilà. Dit, les cunilingus.
Et donc, la technique, ce serait, donc si on n'en trouve pas des tout faits, voilà, de prendre un préservatif, de couper le bout du préservatif où il y a le réservoir, et de le couper après dans la longueur, et on obtient un rectangle de latex. Qui peut servir de digue dentaire,
ouais.
Ou alors le faire avec les gants en vinyle ou les gants en latex, et de la même méthode mais en gardant le pouce pour pouvoir mettre la langue si on veut, si j'ai bien compris.
Bah ça c'est à tester, hein. Il paraît que ça peut être sympa. Donc de couper le gant dans la longueur au niveau du petit doigt. Ce qui fait que quand on le déplie, tchac, au milieu, il y a le pouce. Et peut-être que ça vaut le coup d'essayer de mettre sa langue dedans pour voir ce que ça donne, quoi.
Avis aux amatrices, et le truc cool, c'est de mettre du gel lubrifiant en dessous, en tout cas sur la vulve, les petites lèvres et tout ça pour qu'il y ait une sensation vachement plus agréable pour la personne qui reçoit le cuni.
Et pas se tromper de côté, parce que sinon c'est pour la personne qui va le faire que ça va être moins agréable.
et en changer... si c'est à toi qu'on peut le finir après.
Et d'ailleurs, je rappelle que les personnes qui ont des relations hétérosexuelles peuvent tout à fait s'amuser à utiliser aussi les digues dentaires ou les...
Puisque nous espérons ici que les personnes hétérosexuelles pratiquent également le cunnilingus.
Oui.
Non, mais carrément, oui, c'est tout à fait les mêmes risques qui sont pris.
Ah oui, oui.
Oui, non, mais c'est des petites blagues.
Mais
pas
non, non, mais c'est parce que souvent, on associe les digues dentaires ou les carrés de latex ou en tout cas toute forme de barrières entre guillemets pour les cunis à des pratiques lesbiennes alors que les hétéros devraient se sentir concernés aussi.
Et d'ailleurs on peut également utiliser ces petits carrés de latex pour les rapports bouche-anus puisque ça peut également être des caresses très agréables et donc alors là c'est valable pour la planète, hein, tout le monde, n'importe qui, tout le monde a un truc.
Ouais, exactement. Puis, moi, j'avais juste une dernière chose à dire, c'était que, enfin, il y a longtemps maintenant, mais au mois de juin, je pense, j'ai vu le film Too Much Pussy,
ouais,
d'Emily Jouvet, qui est un film queer sur des... Enfin, je sais plus, on dit femmes cisgenres, c'est ça, biologiques.
Oui.
Qui partent en tournée pendant un mois et qui font un slut queer x show.
Voilà. Elles font un spectacle un peu porno érotique.
Ouais. Et donc moi je l'avais vu parce que justement cette réalisatrice voulait financer son film et tout ça, donc c'est passé dans des squats et tout ça, c'est passé aussi à Paris. Donc j'avais vu le spectacle, mais après je l'ai vu, j'ai vu le film.
Et il est bien.
Et franchement, il est bien. Il est vraiment bien. Enfin, moi, j'ai vraiment adhéré alors que je suis pas du tout queer. Je suis plutôt de la vieille école, genre lesbienne radicale.
D'accord. Bon, alors malheureusement, on n'en va pas avoir le temps d'expliquer pour les auditeurs auditrices qui comprendraient pas la différence entre être plutôt queer ou plutôt lesbienne radicale. Mais
voilà. Enfin.
Tu conseilles, quoi.
Ouais, je le conseille vraiment, et je conseille même le film porno qui a été qui est sorti à pratiquement en même temps, qui s'appelle Much More Pussy, qui est en fait très drôle et très militant, très féministe. Et moi, les films de cul d'habitude, ça m'emmerde. Je suis capable de les regarder, ça me fait rigoler. Enfin, j'essaye d'y voir le point de vue aussi esthétique en même temps. Pour le coup, celui-là, il était vraiment bien, mais parce qu'ils reprennent des scènes de Too Much Pussy. Voilà. Et en fait, je voulais faire juste un point sur le fait qu'il y a l'une des femmes, qui est une sex worker américaine, qui vient de San Francisco, qui s'appelle Sadie Lune. Et, à un moment, elle fait, lors de sa performance, sur scène, elle montre son cervix.
Elle montre quoi ?
Son cervix.
C'est quoi ?
Son col de l'utérus.
Ah, voilà. Cervix, ça pourrait faire un prochain quiz.
et en fait, c'est dur de voir le sien. Moi, j'ai essayé avec une lampe, avec
mais t'étais toute seule. Ça.
Mais toute seule, c'est vraiment dur, et surtout sans l'écarteur, quoi.
Le spéculum.
Le spéculum, voilà, sans le spéculum.
Ah oui, alors, c'est sûr.
Tu sais que les spéculums, on peut tout à fait en acheter dans les magasins de matériel médical à l'unité, c'est pas très cher. Hein.
Ah ouais.
Ouais, ça se trouve.
C'est bon à savoir. Et donc en fait, je sais que ce moment-là du film m'a vraiment fasciné et donc elle explique que ça vient d'Annie Sprinkle, une sexperte des États-Unis aussi.
Ouais.
Qui elle a fait ce show dans les années 90, je pense. Mais donc, du coup, c'est Sadie Lune qui reprend le flambeau. Et en fait, pour le coup, j'ai vraiment trouvé ça génial. Et voilà, moi, j'avais jamais vu un col de l'utérus, un cervix.
C'est beau, hein.
J'étais
moi, je trouve ça très beau, un col de l'utérus, en vérité.
Mais en tout cas, sinon, tends l'oreille, parce que régulièrement sont proposés des, ce qu'on appelle des ateliers de, d'auto-examen gynécologique.
Régulièrement, t'exagères un peu. Disons que dans les réseaux militants féministes, ça,
oui,
ça arrive.
Ça se pratique. Nous, on l'a déjà fait plusieurs fois.
Enfin, faudrait que je bouge. Enfin, ouais. Je vois que sur Paris, c'est pas trop. Sur Grenoble, où vous êtes, il y a vachement plus de choses. Mais,
ça me fait trop rire. Quand tu dis ça sur Paris, il n'y a pas grand-chose. Écoute, on a un peu l'idée que la capitale, c'est la capitale.
Mais en tout cas, moi, j'ai assisté à un atelier de Déborah Sandal qui était pour trouver son projet. Et franchement, ben, j'ai pas trouvé quoi. Sur le coup, bah, il s'est rien passé. Enfin, j'ai pas. C'était intéressant. Hein. Puis c'est toujours un peu intimidant avec une quinzaine de filles. Voilà, oui. Chacune essaye de trouver son projet.
Et arrêtez, Manu, là en fait, alors, tu sais, normalement on est censé rendre l'antenne à 21h. Alors en même temps, ça
on a débordé, c'est pas grave. Hein.
Non, ça nous fait hyper plaisir de discuter avec toi. Alors on s'en fout de rendre un peu en retard, mais malheureusement, peut-être si on veut parler d'autres sujets, bah, faudra nous rappeler encore une fois.
Ok.
Mais avant quand même que tu nous quittes, comme je sais pas si t'écoutais l'émission avant. Ce soir, on avait fait un quiz et personne n'a appelé pour répondre au quiz. Alors, si ça se trouve, tu as la réponse et tu pourrais gagner notre super cadeau. Est-ce que tu sais ce que c'est que le candidat albican ?
Le candidat albican ?
Albican.
Albican. Non, je ne sais pas du tout.
Ah.
Bon, c'est pas grave. C'est on peut donner la réponse. C'est le champignon, oui, de la mycose.
Voilà, c'est ça. Donc,
d'accord.
Bon, en tout cas, je vais donner quelques petites explications, puis après nous on va conclure l'émission. On te repasse Greg et surtout t'hésites, okay, pas à nous rappeler, Manu.
Merci, mais merci beaucoup à toutes les deux, enfin à toute l'équipe de Calibre.
Ah bah je t'en, ouais, prie, et puis c'est un plaisir.
J'écoute
avec grand plaisir tous les jeudis via internet, et c'est vraiment cool quoi.
Ah c'est trop super, bien. Merci. Ciao, ciao.
Au revoir.
Voilà, donc ben voilà, de manière exceptionnelle, des fois on prolonge un peu l'émission.
Ah bah oui, il y avait trop de choses intéressantes à discuter, puis surtout elle nous a parlé de beaucoup de choses, ça donnerait envie de. Bon.
Voilà. Alors, on est quand même censé conclure là, donc on va faire une conclusion plus rapide que prévu. En tout cas, la réponse du quiz, donc c'est bien ça. Hein, c'est le candidat albican, c'est le champignon qui provoque les mycoses vaginales. Voilà. Donc c'est.
Ça n'a rien à voir avec les élections.
Ça n'a rien à voir. Et on voulait juste rappeler que les champignons ne sont pas des bactéries. Donc quand on a des mycoses, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on ne se lave pas ou qu'on est sale ou qu'on je sais pas quoi, ce qui peut dire dans ces moments-là de pas très sympa. Et du coup, même d'ailleurs trop se laver, ça peut provoquer des irritations. Voilà.
Et oui.
Donc voilà, le candidat
albican. Il faut pas trop se laver. En tout cas, pas trop à l'intérieur, surtout. Et les, oui, douches vaginales, ça ne sert à rien du
Il
tout.
Il faut surtout pas faire ça.
Le vagin est auto-nettoyant. Hein. Vraiment, on ne le dira jamais assez. Un tout petit agenda très très vite fait donc de ce qui se passe à Grenoble. Demain soir, vendredi, il y a
9 décembre.
9 décembre, donc une projection dans le cadre des projections transpédéguines à la BAF, donc ce fameux local autogéré qui se trouve, je ne sais plus combien, chemin des Alpins, deux chemins des Alpins après le croisement. Stalingrad, rue des Alliés, bref, un film qui s'appelle Stonewall et qui en gros est un film qui mélange la fiction et des faits historiques et qui raconte les semaines qui ont mené aux émeutes de Stonewall, qui a été un événement majeur dans le mouvement des droits des homosexuels américaines. Ouais, super, voilà. Et cette projection étant non mixité, trans, PD, Gwyn et meuf. Voilà.
C'est à 19h demain.
Tout à fait. Et je pense que ça va être un très film, très bien.
Oui, si vous voulez rencontrer des personnes de calibre, on y sera, un certain nombre d'entre nous. Et donc, sinon, dans l'agenda, on voulait vous parler de
la prochaine émission Calibre.
Mais
la,
oui,
semaine,
voilà,
prochaine.
La thématique. Donc, c'est une émission thématique la semaine prochaine sur les poils. Et donc, voilà, les animatrices qui vont animé cette émission ont écrit une petite présentation. Réussir son épilation des aisselles. Déclarons la guerre aux poils disgracieux. Les hommes et leurs poils. Conseils et astuces pour une peau douce. Que d'incitations toujours renouvelées. Et surtout à l'approche de l'été. Voilà, donc c'est un appel à témoigner.
Si vous aimez les poils, si vous ne les aimez pas. Comment vous faites avec tout ça? Et d'ailleurs, tout à l'heure, on parlait de cuni, c'est intéressant aussi. Alors, cuni avec poil ou sans poil?
Voilà, donc bon,
toutes
ça,
ces questions, toutes ces réponses,
la semaine prochaine.
Que de la finesse sur Calibre.
Le jeudi 15 décembre prochain. Entre autres soirées, peut-être on annonce quand même la soirée sur les radios libres à Antigone.
Et bien oui, parce que nous, là, en Calibre, aussi, on est super contente d'émettre sur une radio libre, une radio associative qui n'est pas une radio commerciale. Même si on émet aussi sur Internet, c'est quand même encore important pour nous d'émettre sur les ondes.
Voilà, et donc sera débattu et discuté ces questions des radios libres le mercredi 14 décembre prochain à partir de 20h à Antigone, la librairie autogérée qui est au 7 rue des Violettes.
14
non. 7. Ouais, je sais pas.
Ouais, rue des Violettes.
C'est à même Grenoble. Peut-être pas du tout 7 et 14, je crois que c'est 22. Enfin bon. Rue des Violettes à Grenoble. Et vous pouvez.
Oui, c'est le 22, ça y est, c'est sûr.
Venir si ça vous intéresse, cette question des radios libres. On rend l'antenne, il est 21h16. Nous étions le 8 décembre 2011.
Et ce soir, c'était Greg au téléphone, Laura à la technique et Adeline et Marina à l'animation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Libre Antenne.
Ciao, ciao. Corps,
amour, sexualité.
Calibre, une émission en direct sur Radio Kaléidoscope.
Calibre, une antenne libre où poser des questions sans tabou ni jugement.
Tous les jeudis, de 20h à 21h, appelez-nous au 04 76 09 09 09.